On est par téléphone avec Philippe Vanson du blog Passeur d'Hospitalité, un blog qui rencontre de l'intérieur de la situation des migrants de Calais. Philippe Vanson avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas aujourd'hui à Calais, vous êtes à Paris. Peut-être un petit mot d'explication sur ça?
Ouais, tout simplement, j'avais prévu de prendre des vacances, ce qui est complètement raté. Parce que du coup, je suis la situation avec les gens qui sont sur place et je continue à alimenter le blog en conséquence.
Alors, on va parler de la destruction du camp. Alors, quels échos, quelles informations vous pouvez nous donner sur cette destruction, une destruction qui était annoncée depuis longtemps, mais comment ça s'est passé finalement plutôt mal?
Oui, concrètement. Alors, l'impression qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, les autorités ont fait miroiter des possibilités de relogement en considérant qu'il y avait beaucoup moins d'exilés qu'il y en a en réalité. Donc, la solution qu'ils ont, c'est de faire peur aux gens pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Donc, on a une intervention qui a tourné de manière assez brutale lundi, avec encore des violences hier matin. L'impression que c'était toujours tendu, mais plus calme hier après-midi. Et puis ce matin, la police est revenue et apparemment, ils sont en train de commencer à démolir des cabanes qui sont le long du chemin des dunes. Donc ça continue. Le mode opératoire, c'est d'aller dans les cabanes, de dire aux gens qu'ils doivent partir, éventuellement de les faire partir. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui, pour protéger leur habitat, étaient montés sur le toit, par exemple. Donc là, il y a eu menaces avec flashball, tabassage, parfois arrestation. Voilà, ils font partir les gens. Ensuite, ils disent que les cabanes sont vides et les cabanes étant vides, ils les détruisent. C'est un peu le mode qui est utilisé et ça prendra un certain temps. Ils le font secteur par secteur.
En général, quand il y a des destructions, les gens partent avant. Là, ils sont restés, les migrants, dans le bidonville.
Oui, il y a déjà des gens qui s'étaient déplacés avec l'aide de certaines associations au moment où tout un terrain avait été vidé pour construire l'actuel camp de containers qui est sur un endroit où se trouvaient des cabanes, où se trouvait une partie du bidonville. Ensuite, il y a eu l'évacuation de la zone de 100 mètres le long de la rocade d'accès au port et de la route de Gravelines. Donc là encore, il y a des gens qui ont déménagé. Et là, juste, les gens, ils y croient plus. Enfin, ils vont pas déménager pour la troisième fois. Et ils croient pas dans les solutions que leur offre l'État, qui sont de toute façon, insuffisantes. Donc, du coup, ils restent. Enfin, ils attendent que la police arrive. Éventuellement, ils essayent de défendre, leur maigre bien, leur cabane. Et puis ils sont chassés, quoi.
Ouais, vous parlez de violences policières, donc tabassage, gaz lacrymogène, menaces au flashball, des choses de ce type.
Oui, il y a des arrestations.
Il y a des témoignages vidéo, des témoignages aussi des humanitaires qui sont, j'imagine, pour une partie en tout cas, restés avec les migrants.
Oui, il y a à la fois des témoignages qui ont été consignés par les associations. Il y a quelques vidéos aussi qui circulent sur Internet, mais qu'il faudra rendre peut-être plus visibles aussi. Ça demande du temps aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sur le terrain. Il y a besoin d'organisation pour rendre ça plus visible, mais c'est un travail qui est en cours.
Rendre plus visible, ça peut paraître étonnant parce qu'il y a quand même énormément de médias qui sont sur place. Alors, ils sont tenus à l'écart ou ils
Oui,
sont
la
du
dernière
côté
dépêche
de
que
la
j'ai vue de
police?
l'AFP, ils témoignent en fait, entre guillemets, mais de l'autre côté du cordon de police. Donc du coup, ils voient pas grand-chose et du coup, ils reprennent essentiellement la version des autorités, agrémentée éventuellement de quelques témoignages associatifs. Mais effectivement, les médias sont tenus à distance et du coup, les autorités, elles, communiquent beaucoup.
Alors justement, oui, il me semble, hein, que leur communication s'axe autour d'une culpabilisation des humanitaires et notamment, hein, des plus militants des humanitaires, hein, le collectif No Border, hein, ils les accusent, enfin l'État, le ministère de l'Intérieur accuse les No Border finalement de fomenter une sorte de révolte, d'émeute, quoi.
Oui, enfin, c'est un peu comme si les gens n'allaient pas défendre leur maison, quoi. D'ailleurs, défendre leur maison, ils montent sur le toit de la maison. Il y a eu quelques jets de pierre, mais ça n'a pas été. Il y a toujours eu des gens pour essayer de les équiper aussi, pour essayer de calmer le jeu. Mais de toute façon, c'est devenu un classique de la rhétorique gouvernementale, c'est qu'il y a un coupable. L'État est gentil. Quel dommage qu'il soit obligé de devenir violent à cause d'un groupe qui serait là et qui causerait tous les désagréments, alors qu'on a quand même la destruction des habitations de 3 500 personnes. C'est la plus grosse expulsion de bidonville que la France ait connue, au moins depuis la destruction des derniers bidonvilles. Mais à l'époque, les gens étaient relogés en HLM dans les années fin des années 60, début des années 70. Donc au moins depuis cette époque-là, c'est la plus grosse destruction de bidonville qu'on ait connue.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite, quoi? Parce que les gens sont éloignés, mais on sait bien que au final, ils reviennent quand même.
Bah, la plupart des gens ne sont pas éloignés, en fait. La plupart des gens restent. Pour l'instant, se tassent dans ce qui subsiste du bidonville. Ensuite, si vraiment tout le bidonville est rasé, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se remettre à vivre, à se cacher dans les buissons, à être délogés de matin en matin. C'est la situation qu'on connaît à Zeebruges, où les autorités sont intervenues très vite pour qu'il n'y ait pas de constitution de campement. Donc les gens sont là, probablement quelques centaines, sauf que toute tente et tout abri étant aussitôt détruits, ils dorment simplement à la belle étoile en plein hiver. Donc c'est cette situation-là vers laquelle on risque d'aller à Calais, c'est-à-dire une situation beaucoup plus précaire, les gens y ont beaucoup moins accès aux associations, une solidarité qui serait beaucoup plus difficile et beaucoup plus de violence.
Est-ce qu'il y a aussi donc du côté des humanitaires des arrestations, des gens qui se sont fait tabasser aussi?
Alors il y a, à ma connaissance, trois personnes qui ont été arrêtées, dont une relâchée, et deux militants, enfin deux bénévoles humanitaires qui seraient toujours en garde à vue, qui seraient peut-être déférés en comparution immédiate devant le tribunal. En tout cas, hier, on était sans nouvelles encore.
Dans la région, il y a des associations, on peut dire un peu satellites, hein, qui aident les camps, avec des collectes, avec différentes choses, des différentes interventions. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider, peut-être aussi manifester, exprimer un mécontentement?
Oui, alors il y a des manifestations qui s'organisent au Royaume-Uni, à Paris. Il y avait une manifestation hier à Nantes. Il y en a une qui est prévue samedi à Genève. Et chacun, en fait, a autour de soi une préfecture, des parlementaires à interpeller. C'est-à-dire, il y a vraiment une solidarité qui doit se montrer. Mais du coup, pour l'instant, l'essentiel n'est pas d'envoyer des vivres et des couvertures. L'essentiel, c'est d'interpeller les autorités pour que ça cesse et pour montrer qu'il y a une solidarité qui se mobilise autour des habitants du bidonville. Alors, pas pour pérenniser le bidonville lui-même, parce que les conditions de vie, ils sont quand même désastreuses, mais pour qu'il y ait des solutions viables, pérennes, qui soient mises en place, pour un accueil digne à Calais.